RCFM, le club de la presse.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Club de la Presse, votre rendez-vous de l'actualité du jeudi, une actualité commentée avec mes confrères de la presse régionale. Ce soir, Jean Vitus Albertini de Via Stel et Roger Antèche de Corse Matin. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir Patrick.
Et de 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, barreau d'honneur ou pas, une semaine avant la décision du Conseil constitutionnel, nous en débattrons. Une mobilisation qui, depuis quelques semaines, se radicalise, donne lieu à des violences. Violence d'une partie des manifestants, violence en réponse des forces de l'ordre. Proportionnée selon le ministère de l'Intérieur, disproportionnée selon les opposants, mais aussi des associations comme Amnesty ou la Ligue des droits de l'homme. Pour en parler ce soir avec nous, Elsa Renaud, présidente de la section Corse de la LDH. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous répondrez aussi à la polémique qui fait suite aux propos de Gérald Darmanin hier devant les sénateurs, laissant entendre qu'il pourrait remettre en cause les subventions accordées à la LDH. Enfin, au menu, le regain de violence en Corse, deux organisations clandestines, des attentats quasi quotidiens, des mairies visées. Sommes-nous revenus 20-30 ans en arrière? Nous entendrons le préfet de Corse qui était hier soir l'invité de Contrasto, émission que vous pourrez réécouter en intégralité à partir de 19h sur RCFM. Le Club de la Presse, c'est parti.
RCFM, le Club de la Presse.
On débute donc par cette polémique née des déclarations du ministre de l'Intérieur au Sénat, répondant à la question d'un sénateur Les Républicains. Gérald Darmanin, auditionné, évoque la LDH, intervenue à plusieurs reprises ces dernières semaines pour dénoncer certaines pratiques policières et le rôle des forces de l'ordre à Sainte-Soline, où elles auraient empêché les secours d'intervenir. On écoute le ministre et on ouvre le débat.
Alors vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener, mais je rappelle que beaucoup de collectivités locales aussi les financent. Voilà. Non, mais je le dis aux représentants des collectivités locales également que vous êtes. Voilà. Donc ce n'est pas qu'une question, il n'y a pas que l'État.
RCFM, le club de la presse.
Elsa Renaud, dans ces propos du ministre Darmanin, percevez-vous, comme beaucoup d'observateurs, des menaces à l'encontre de la LDH ?
Alors, je dirais que les attaques portées contre la Ligue des droits de l'homme sont malheureusement significatives de la crise démocratique que nous vivons, une crise d'atteinte aux droits en général, aux droits sociaux, aux libertés fondamentales. Vous le disiez, le ministre répond à un sénateur LR qui a appelé à cesser de financer la Ligue des droits de l'homme et qui a aussi visé la défenseure des droits. Alors si effectivement il y a remise en cause de subventions à la Ligue des droits de l'homme, c'est particulièrement grave. Ce serait une nouvelle atteinte aux droits d'association. Je préciserai que la Ligue des droits de l'homme existe depuis plus de 120 ans. Elle est née avec l'affaire Dreyfus, qu'elle défend depuis toujours les droits et libertés pour tous, en contrepoids des pouvoirs qui sont toujours tentés vers l'abus, même en démocratie. Et il y a une période où la Ligue des droits de l'homme a été contestée, eh bien c'est sous Vichy. Alors on ne peut pas imaginer que le ministre de l'Intérieur veuille revenir à une période semblable. En tout cas, s'il laisse entendre cela, d'une menace de suspension de subvention...
Ça représente une part importante, ces aides de l'État et des collectivités pour la LDH.
Ben, ça fait partie des moyens pour fonctionner, mais il y a aussi, bien entendu, les cotisations, les dons, les legs. Hein, donc il y a d'autres moyens pour fonctionner pour la Ligue des droits de l'homme.
Jean Vitus, Roger.
Oui, est-ce que vous croyez vraiment
Jean Vitus.
De Darmanin, parce que bon, il joue un peu, on sait, il est ministre de l'Intérieur, il joue un peu son rôle dans la majorité, c'est celui du tenant de l'ordre, comme faisait un peu Manuel Valls quand il était ministre de l'Intérieur, et puis on sait aussi qu'il a de grandes ambitions politiques. Est-ce que finalement il ne force pas un peu le trait, en sachant très bien que personne ne coupera les subventions ou les aides à la Ligue des droits de l'homme? C'est quand même quelque chose d'assez nouveau et inouï en République.
Bon, en attendant, il laisse planer une forme de menace et il le fait aussi en référence au rôle qu'a eu la Ligue des droits de l'homme avec ses observatoires des libertés publiques et des pratiques policières à Sainte-Soline. Sachant que ces observatoires étaient là pour observer, comme leur nom l'indique, et pour constater donc certaines violences, mais elles étaient là aussi pour participer à la manifestation de la vérité qui aurait pu être faite, qui pourrait être faite sur ces violences.
La justice est saisie, hein.
Oui. Oui, la justice est saisie par deux familles, et saisie notamment pour entrave au secours.
On va y revenir sur entrave au secours.
Il y a eu plus de 200 blessés, hein, de tous côtés, mais il y a eu plus de 200 blessés.
Roger.
Dont des très graves.
Sur ces manifestations, on parle beaucoup de Sainte-Soline, mais il y a également les violences en marge des défilés, des 11 défilés contre les retraites. Il y a cette notion de riposte proportionnée et nécessaire. Est-ce que tout simplement c'est un concept que l'on peut tenir dans une manifestation? Bon, je parle bien sûr des manifs contre les retraites, mais aussi à Sainte-Soline. Comment on peut juger dans ces circonstances-là de ce qu'est une réponse proportionnée? Nécessaire, elle l'était sans doute, mais proportionnée. Moi, il me semble que c'est un concept qui est difficile à apprécier dans une situation de violence telle qu'on les a connues.
Alors, les forces de l'ordre sont aussi les gardiens de la paix. Ils sont là pour garantir le droit de manifester. Et on pourrait, concernant l'escalade répressive que l'on a pu observer durant ces mobilisations contre la réforme des retraites, on pourrait se rappeler que l'État a été interpellé aussi bien par le Conseil de l'Europe, par l'ONU, par la défenseure des droits, hein, qui est là pour exercer un contrôle indépendant par rapport aux forces de l'ordre. Il y a aussi eu des arrêtés suspendus. Donc, on est bien dans une escalade répressive très, très inquiétante.
Concernant
des nombreuses interpellations illégales.
Concernant Sainte-Soline et l'entrave au secours, pourquoi avoir rendu public cet enregistrement des propos d'un régulateur du SAMU qui n'était pas sur place, enregistré à son insu par une avocate de la LDH qui n'était pas elle non plus sur les lieux du drame? On a vu que d'autres témoignages ensuite, donc dont des images de France 3 Aquitaine, du médecin de la gendarmerie qui était auprès du blessé, du SAMU également, sans parler de la préfecture, des propos, d'autres témoignages qui ont démenti le scénario du secours empêché, allant même jusqu'à accuser les manifestants d'avoir ralenti leur progression. N'êtes-vous pas allé trop vite dans cette affaire ?
Alors, pour notre part, les observatoires des libertés publiques et des pratiques policières ont été mis en place avec les manifestations des Gilets jaunes. Il y a des protocoles d'observation qui sont établis avec le CNRS, notamment. Les observatoires doivent être protégés, hein, leur qualité est garantie, hein, par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Ce sont des observations qui sont encadrées par le droit et nous sommes...
Mais est-ce qu'il y avait urgence à rendre public cet enregistrement qui ne prouve rien en fait ? Pas grand-chose. Des médias comme Le Monde sont revenus en arrière en disant qu'il était impossible d'affirmer qu'il y avait eu entrave.
Il y avait notamment des manifestants grièvement blessés. Hein. Je rappelle qu'un manifestant est aujourd'hui toujours dans le coma.
Serge Graziani.
Et donc, il avait nécessité à interpeller les responsabilités.
Sur cette manif de Sainte-Soline, il y a un point sur lequel on n'aborde pas beaucoup, finalement. Mais en fait, c'était un rassemblement qui était tout simplement interdit aussi. Est-ce que... Par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, aussi un problème, quoi. La manif était interdite, bien ça.
Alors là, on pourrait faire référence à ce qui a été dit par le rapporteur spécial de l'ONU hein, sur les défenseurs de l'environnement. Et il dit, eh bien, on empêche des gens d'aller manifester, on arrête préventivement, tout cela dans le but de créer de la crainte et de dissuader les éventuels manifestants de participer au rassemblement. Eh bien, on dit la manifestation va être violente et bien évidemment, dit-il, les prophéties s'autoréalisent. Et donc, ce rapporteur spécial de l'ONU a bien déclaré que tout cela lui semblait inquiétant, préoccupant, et c'est pour ça qu'il y a lieu d'alerter les instances internationales.
Jean Vitus.
Et moi, je voudrais revenir un peu de façon plus générale sur la recrudescence des violences dans l'espace revendicatif. Ça a commencé avec les Gilets jaunes, des mouvements qui ont été assez violents. Ensuite, le mouvement social, bon, pas du fait des syndicalistes et des syndicats ou des gens qui manifestaient, mais ensuite les débordements qu'on a pu voir par la suite. Et puis, à côté de ça, une répression extrêmement violente aussi. Pendant les Gilets jaunes, on a vu un nombre incalculable de personnes qui ont été très grièvement blessées. En particulier, il y a eu des policiers, mais aussi des manifestants, des gens éborgnés, des gens qui ont eu des membres amputés. Comment est-ce que vous expliquez cette recrudescence de la violence dans l'espace revendicatif? C'est quand même récent, même sous Sarkozy, ni sous Hollande, on avait connu un tel degré de violence.
Alors, il est sûr que ces violences s'inscrivent dans un contexte de régression des droits et dans un contexte de demande de débat démocratique. Concernant les manifestations, ce qui se passe avec les mobilisations contre la réforme des retraites, eh bien, les syndicats sont bien dans une demande de débat sur un sujet éminemment démocratique et sur un sujet grave, celui du temps de vie au travail. Eh bien, quand le gouvernement répond par des méthodes accélérées, par un déni démocratique en écartant le dialogue social, il ne fait qu'exacerber les radicalités et le sentiment de révolte.
N'est-ce pas une façon de justifier la violence, vos propos ?
Non, il ne s'agit pas de justifier la violence. C'est le risque encouru par un gouvernement qui ne s'inscrit pas dans le débat démocratique.
Des libertés durant le quinquennat, le premier quinquennat et maintenant le deuxième quinquennat de Macron.
Pardon, je n'ai pas compris le début de votre question. Je n'ai pas entendu.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un recul des libertés depuis 2017 ?
Le recul des libertés, il s'est inscrit aussi dans certaines lois. La loi sécurité globale, la loi pour conforter les principes républicains. Et il y a eu encore une fois plusieurs condamnations de l'État français.
Est-ce que la LDH est une organisation, une association impartiale ? Ce matin, Olivier Véran, donc porte-parole du gouvernement et ancien membre de la LDH, l'a accusé d'être politisée, partisane.
Alors, je vais vous répondre que la seule boussole de la ligne des droits de l'homme, eh bien, ce sont les textes fondamentaux hein, qui font référence aux droits de l'homme. Hein, la Déclaration universelle de 1948, la Déclaration de 1789, qui sont dans le bloc constitutionnel. Notre seule lecture, c'est au regard de ces droits, à la fois les déclarations, mais aussi les protocoles qui sont contraignants. Juridiquement.
Je n'ai pas vu passer, mais peut-être que je me trompe, des communiqués de la LDH condamnant les violences des Black Blocs, les menaces contre les élus, la destruction de la porte d'entrée de la mairie de Bordeaux, mais peut-être que je me trompe.
De façon générale, la Ligue des droits de l'homme dénonce, condamne toute forme de violence. Là, on ne peut pas faire ce procès aux défenseurs des droits.
Roger, une dernière question à notre invité avant de passer aux retraites.
Non, mais c'était la même que... Vous pourriez condamner aussi des violences faites sur les forces de l'ordre dans ce cas-là, sans problème, si vous les constatiez.
La Ligue des droits de l'homme a tout à fait déploré des atteintes qui auraient pu être faites contre les forces de l'ordre de façon gratuite. Si elle, voilà, ça, c'est évidemment.
Elsa Runeau, vous pouvez rester avec nous. On va poursuivre en parlant des retraites, parce que pendant ce temps, violence ou pas, la mobilisation se poursuit. 11e journée de mobilisation ce jeudi. Moins de grévistes, moins de manifestants, mais une intersyndicale plus soudée que jamais, déterminée. Jean Vitus, à une semaine de la décision du Conseil constitutionnel, est-ce l'épilogue ou est-ce que le feuilleton n'est pas terminé?
Je pense que le feuilleton n'est pas terminé, puisque là, j'ai devant les yeux l'écran de télévision, les chaînes info qui annoncent une nouvelle mobilisation pour le 13 avril.
Donc, la veille de la décision du Conseil constitutionnel.
Voilà. Donc, au moins jusque-là, je pense que les choses vont rester en l'état. Il y aura encore des mobilisations. On verra ensuite la décision du Conseil constitutionnel. Mmh. Si c'est une décision radicale, c'est-à-dire un rejet total de la réforme, les choses s'arrêteront. Mmh. Si c'est une décision mi-chèvre, mi-chou, pour mécontenter personne, on verra bien, mais après, il y a cette...
L'article 7 est maintenu, ça mécontentera forcément l'intersyndicale.
Mais ensuite, il y aura le processus pour ce référendum d'initiative partagée. Bon, mais ça risque de mettre du temps. Alors, quelle va être la situation sociale ensuite en France? Ça, il y a un malin qui pourrait le dire. Hein. Il y a un tas de petits conflits comme ça qui peuvent prendre d'autres proportions. Mais je pense que, en tout cas, ça va laisser des traces assez importantes au plan social, bien sûr, au plan sociétal, puis surtout au plan politique. Parce que là, vous avez vu un certain nombre de sondages qui sortent. Bon, bien sûr, on est très loin d'une élection présidentielle.
On va demander son sentiment à Elsa Renault sur cette montée, en tout cas dans les sondages du Rassemblement national.
Gagnante d'une prochaine présidentielle. Bon, on en est très loin. Hein. Mais c'est quand même des signes à ne pas négliger.
Roger Baroudonneur. Ou pas.
Non, je pense pas. Je pense que la chose est loin d'être terminée. En tout cas, je constate qu'il y a un sens du calendrier de part et d'autre. Hein. Je pense que l'intervention du président de la République il y a deux semaines de ça a remis de l'huile sur le feu. Je pense que la rencontre de Matignon hier qui s'est soldée par un échec, parce qu'on voit bien que les deux parties ne peuvent plus dialoguer, ne peuvent pas dialoguer, sans doute remobiliser les troupes, même si on le voit pas forcément dans les cortèges aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est assez remarquable, hein, et qui, à mon avis, doit être assez unique dans les combats sociaux. C'est l'unité que montrent les forces sociales. Hier, il y avait vraiment une grande unité qui était affichée par la CFDT, par la CGT, par FO, par toutes les centrales qui étaient présentes. Au bout de 11 semaines de lutte, je pense que c'est extrêmement rare. Et maintenant, ce nouveau rassemblement à la veille de la décision du Conseil constitutionnel, oui, je pense
ça
que
risque de remobiliser.
La partie est loin d'être terminée du côté des syndicats et du gouvernement aussi, qui, je pense, doit mesurer la crise politique dans laquelle il est enfermé aujourd'hui.
Elsa Renault, quelle qu'en soit l'issue, cette séquence retraite débutée en janvier laissera-t-elle des traces au plan politique? Jean Vitus l'a dit, dans toutes les récentes enquêtes et sondages, c'est le RN qui semble en tirer les marrons du feu, alors qu'on ne l'entend pas ou très peu.
Alors effectivement, on est tous inquiets de la situation de cette crise sociale et crise démocratique. C'est vrai qu'on a besoin de dialogue, de responsabilité et de solidarité à l'image de l'unité syndicale que vous décriviez. Hein. Il est certain que la solution, ce serait le retrait pur et simple de la réforme, hein, pour s'inscrire dans un temps de débat. Alors oui, quand on est dans une période où on attaque les libertés, où on attaque les droits, où on s'en prend aux défenseurs des droits de l'homme, eh ben oui, ça va dans le sens de ce que veut le Rassemblement national. Et donc, eh bien, il faut effectivement tout faire pour sauvegarder tout ce qui est développement démocratique, tout ce qui est égalité en droit, tout ce qui est refus des discriminations. C'est le meilleur rempart contre le RN.
Allez, on referme cette première partie.
RCFM, le club de la presse.
Y aura-t-il, comme prévu, une nouvelle rencontre fin avril, malgré la crise politique au niveau national et le regain de violence en Corse? Je n'ai pas d'informations contraires, s'est borné à répondre le préfet de Corse, qui était hier soir l'invité de Contraste, ou l'émission de Viastel, en partenariat avec RCFM et Corse Matin. Selon Amaury de Saint-Quentin, le processus de Beauvau n'est pas remis en cause. Le représentant de l'État qui a qualifié d'intolérable et d'inacceptable les récents attentats, notamment ceux visant les mairies, il ne comprend pas par ailleurs la position des élus nationalistes qui soutiennent les maires mais se refusent à condamner les actes. On écoute Amaury de Saint-Quentin et on réagit.
Ces violences sont intolérables, inacceptables dans une démocratie. Il y a d'autres moyens d'expression. Les élus en sont, le monde associatif est aussi un porte-parole efficace de position. Ça crée beaucoup d'incompréhension et beaucoup d'émotion. Je pense que quand un acte est réprouvé, quand il n'est pas partagé, il doit être condamné. Voilà. Et je ne partage pas cette façon de faire et je condamne très fermement ce qui a été fait. Et j'exprime ma solidarité également à l'égard des maires concernés et des élus, des équipes municipales. La mairie, c'est un lieu de proximité, c'est un élément essentiel du contrat et du pacte républicain dans nos territoires. C'est essentiel, la mairie, c'est un lieu sacré pour les républicains.
RCFM, le club de la presse.
Jean Vitus, Roger, nous étions ensemble lors de cette émission. Le préfet a voulu, on l'a senti, ménager les élus nationalistes. Mais manifestement, cette position qui consiste à soutenir les maires sans condamner l'incendie des mairies ne passe pas.
Oui, mais enfin, Jean Vitus. Bon, c'est même pas une surprise que les nationalistes ne condamnent pas la violence. Ça fait 50 ans que ça dure. Je pense que c'est peut-être... La condamnation elle-même, parce que peut-être pensait-il associer la condamnation des mairies à celle des attentats contre les villas. Et je pense que là, chez les nationalistes, c'était pas leur ADN de condamner ces attentats-là. Mais même dans l'opposition, j'ai vu la démarche de Jean-Marc Mandon, il était extrêmement prudent dans ses propos. Hein. Donc il y a quand même aussi une gêne quelque part de la classe politique corse vis-à-vis de la reprise de cette violence, hein, parce que il faut pas se cacher les choses, il y a une partie de l'opinion qui ne désapprouve pas, je dis pas les attentats contre les mairies, hein, mais contre ces résidences secondaires. Il y a aussi ça dans l'opinion.
Sur fond de spéculation.
Donc, peut-être que les élus mélangent un peu la chèvre et le chou, en tout cas.
Roger, rapidement.
Oui, non, mais c'est ce distinguo entre les attentats contre les résidences secondaires et les mairies. Moi, je vous demandais à Renaud justement ce qu'elle pensait de cette frilosité parfois, ou c'est une attitude récurrente, semble-t-il, des nationalistes à ne pas condamner cette violence-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez?
Mais la Ligue des droits de l'homme, elle ne s'inscrit pas dans le jeu politicien. Elle s'exprime et elle s'est exprimée sur les principes, hein, concernant ces incendies. Elle était d'ailleurs présente au rassemblement de soutien. Et elle a condamné le fait de s'en prendre à une mairie et de vouloir installer un climat de peur, et effectivement, parce que c'est une agression contre la démocratie, les citoyens et leurs représentants.
Quid du processus de Beauvau dans tout ça? Dans un indiscret du point, donc on apprend ce matin qu'Elisabeth Borne aurait déclaré que le président de la République n'évoquerait plus la réforme des institutions qu'il souhaitait. Est-ce que c'est plié, Jean Vitus?
Il y a aussi, dans notre information, ce que vous dites, il y a aussi Alexis Kohler qui aurait déclaré devant les parlementaires Renaissance, c'est-à-dire partie du président, qui vont faire partie de la commission de réflexion sur les institutions, aurait dit c'est pas la peine de vous casser la tête parce qu'il n'y aura rien, la réforme ne se fera pas. On verra ensuite les déclarations du président, mais bon, vu la situation politique nationale, vu l'absence de majorité dont dispose Macron, aujourd'hui,
ça paraît difficile.
Il distingue mal comment ça pourrait se mettre en œuvre.
Hein. Roger.
Oui. Et puis non, on sait que les réformes institutionnelles dans la deuxième partie d'un mandat, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire passer. Or, on constate aujourd'hui que Emmanuel Macron ne dispose pas des 3/5 dans un éventuel congrès, et que s'il choisissait même de passer par une autre voie, la voie référendaire par l'appel au peuple, on se demande bien s'il pourrait sortir à ce moment-là des urnes, et surtout à quelles questions répondraient ceux qui auraient à se prononcer lors de ce référendum. Quoi. Voilà.
Alors, il y a juste peut-être une fenêtre de tir, mais je ne sais pas ce qui sera mis en place. C'est par rapport à la Nouvelle-Calédonie, parce que là il y a obligation de faire une réforme.
Réduire la voilure de la révision constitutionnelle.
Voilà. Mmh. Voilà. Mmh. C'est le seul peut-être espace où peut-être il y a une possibilité. Mais c'est vraiment très, très ténu.
Voilà, il est 18h31. Madame Ezla Renaud, merci d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes la présidente de la section Corse de la LDH. Jean Vitus, Roger, merci de m'avoir accompagné tout au long de ce club de la presse. N'oubliez pas, à partir de 19h, la rediffusion de Contraste avec le préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin. À jeudi prochain.
RCFM, le club de la presse.